Nous attendons donc le jour dont on trouve quelque chose en Luc 20, verset 35, où le Seigneur répond à une question sotte des Sadducéens. Luc 20, verset 34. Et Jésus leur dit, « Les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage, mais ceux qui sont estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » C'est un des grands traits du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien, d'introduire une phase toute nouvelle qui est préliminaire à celle que nous avons là. Il vient le jour où, véritablement, il n'y aura plus de différence entre hommes et femmes. Il n'y en a déjà plus, pour ainsi dire. Un des grands versets à propos de l'homme et la femme dans le temps actuel, qu'on pourrait citer sans doute, Galates 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus, car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme. » Et dans le grec qui est traduit littéralement ici, « ni mâle ni femelle, car vous tous vous êtes un dans le Christ Jésus. » Car vous tous vous êtes un dans le Christ Jésus. Et on voit, comme Samuel l'a bien mentionné à la fin de son exposé, dans ce qu'il avait fait après, comment dans le Nouveau Testament, la femme prend une position d'égalité, on peut bien le dire, par rapport à l'homme, tout en conservant ses spécificités et ses différences. Égalité dans le service, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, etc.
Tout à l'heure, je n'ai pas lu le verset, mais peut-être on peut quand même le lire. Toujours dans cette même pensée, 1 Corinthiens 11, verset 11, « Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur. »
À propos de 1 Corinthiens 11, un verset qui est, donc, qu'on a lu tout à l'heure et qui est pas mal contesté, peut-être, on pourrait dire, mais j'aimerais pas qu'on parle de contestation. Simplement, j'aimerais donner une pensée que j'ai peut-être déjà donnée ici. Alors, je m'excuse si vous l'avez déjà entendue et si je me répète. Au niveau des cheveux de l'homme et de la femme, et au niveau de ce qui est dit, donc, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas ? On peut les interpréter de diverses façons, ces versets. La nature ne vous enseigne-t-elle pas ? Donc, je donnerai une version que j'ai. Dans la nature, quand on regarde les animaux qui sont autour de nous, très souvent c'est le mâle qui est le plus joli. Quand on regarde le canard, le colvert par exemple, quand on regarde le lion c'est lui qui a la plus jolie crinière. Quand on regarde le colvert, c'est le plus joli, et alors que la femelle est toute grise, toute marron. Et en fait, il en est très souvent de même dans les animaux, quand il y a une différence, c'est souvent le mâle qui est le plus joli, qui a le plus de parure. Pour l'humain, c'est exactement la différence. Et je crois que Dieu a voulu justement cette différence par rapport aux animaux, où la femme, elle est plus fine, plus jolie. Et en plus, il lui a donné une gloire qu'il n'a pas donnée à l'homme, c'est la chevelure. Alors c'est pour ça que lorsqu'on inverse, un garçon veut, ou un homme veut avoir une chevelure de femme, longue et très jolie, eh bien là, il prend une gloire que Dieu a voulu réserver à la femme, et inversement. Je crois que c'est un cadeau que Dieu a voulu faire, et il suffit de voir si ce cadeau, on le prend ou on ne le prend pas. Quand on a un cadeau, c'est vrai, quand on nous donne un cadeau, on n'est pas obligé de le prendre ou on peut le mettre de côté. Donc c'était cette position, et tout à l'heure aussi une autre chose, à cause des anges. Je dirais que pour le sacrificateur qui entrait dans le tabernacle, c'était assez facile de penser à cela. Parce que si on regarde bien, le voile, le dernier voile du tabernacle, donc celui qui faisait le plafond, il était fait avec des chérubins. Donc ce qui veut dire que le sacrificateur, lorsqu'il levait la tête, il voyait plein de chérubins qui étaient là, qui l'observaient. Et donc, c'était quelque chose de très physique pour lui. Il se sentait regardé par tous ces chérubins. Et pour nous, c'est peut-être aussi une image. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et il y a les anges qui sont là et qui nous regardent aussi. La pollution et beaucoup de choses font que pour avoir une longue chevelure propre, belle, c'est difficile pour une femme. Donc là aussi, il faut quand même reconnaître que les temps changent.
Nous avons une version qui est bonne, mais qui est un tout petit peu ambiguë en français ici, en 1 Corinthiens 11. On devrait traduire « Mais s'il est déshonnête pour une femme d'avoir une chevelure coupée ou rasée. » D'avoir une chevelure coupée ou rasée. Parce que d'être rasé n'est pas très convenable comme traduction, d'une part. Pour une femme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cheveux coupés n'est pas dans le texte. C'est chevelure coupée. Les mots qui sont utilisés ici sont utilisés l'un pour raser et l'autre pour tondre. Autrement dit, ce que la parole recommande, mais nos chères sœurs le savent bien, c'est que la différenciation sexuée soit respectée jusque dans la chevelure. Ça ne va pas plus loin. L'expression « cheveux coupés » et on en a fait des choses excessives parmi nous. Il est utile de le dire pour nos chères sœurs, éviter de les persécuter sur un tel sujet qui leur appartient. Les frères sont toujours très lyriques sur ce sujet, il faut être prudent et laisser le texte à sa vraie place. Et comme l'a dit Bernard, c'est le verset 15, « Si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. » Là aussi, on a un problème avec le mot « voile ». Ce n'est pas quelque chose qui couvre ici, c'est véritablement le voile que les femmes grecques se mettaient autour de la tête et qui était véritablement une parure. On pourrait presque traduire « la chevelure lui est donnée en guise de parure ». En tout cas, c'est le sens du texte. Je m'excuse de reprendre la parole encore, ces textes peuvent paraître donner bien des détails, mais en fait, on voit toute la sagesse divine qui veut qu'en attendant ce jour où il n'y aura plus de différence, la différence entre l'homme et la femme soit bien respectée, même dans l'Église et surtout là. Les frères ont souvent tendance dans de tels, je m'excuse de le dire, mais je suis le premier à verser dans ce travers, les frères ont souvent tendance à parler davantage de ce qui concerne la femme plutôt que de ce qui concerne l'homme. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1 Timothée 2, déjà cité par exemple, nous avons quand même, nous les hommes, des versets qui nous concernent en premier chef, c'est le cas de le dire. En 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc, dit Paul, que les hommes, l'homme en contraste avec la femme, comme donne la note, prient en tout lieu, donc c'est la place spéciale de l'homme, élevant des mains saintes, et là ça nous interroge aussi, savons bien comment il est difficile de prier quand on a des choses sur la conscience, il y a quelque chose qui nous interpelle, en élevant des mains saintes, et au niveau du comportement, sans colère, et sans raisonnement, sans colère. Et là, c'est vrai que pour les hommes, nous avons une exhortation de l'Écriture qui nous vient directement, sans colère et sans raisonnement. Le texte est assez bref, mais il est quand même très incisif pour nous. Ici, il est question d'état extérieur, d'aspect extérieur des choses, à la fin de 1 Timothée 2. Et pour l'homme, il doit se présenter comme cela. L'homme chrétien doit être dans un état de prière, l'état de s'attendre à Dieu, sans colère, sans raisonnement. Et ça lui donne un aspect extérieur qui est un peu le contraire de ce qui se fait dans l'humanité habituellement, où l'homme a au contraire une toute autre place, si j'ose dire. Sentons combien nous sommes interrogés déjà par ce verset-là. Et puis après, il y a ce qui concerne les sœurs. Simplement, peut-être faut-il dire un mot aussi alors de ce qui suit, mais d'autres frères que moi pourraient le donner, en 1 Timothée 2, à propos des versets suivants, de même aussi que les femmes se parent d'un costume décent. Le mot décent veut dire convenable, ici. La parole ne se répète pas. Il n'est pas question ici de pudeur. Elle le dit après. Un costume décent, c'est littéralement cosmique. Arrangé, si l'on peut dire. D'un costume arrangé. Et par la grâce de Dieu, pour reconnaître que nos sœurs respectent ce verset-là. Ont de la tenue. De manière générale, c'est quelque chose qui se fait chez nous. Un costume décent, c'est ça. Alors, avec deux choses, pudeur et modestie. Pudeur, c'est suffisamment couvert. Modestie, pas trop, si j'ose dire, ou surabondamment couvert ou couverte. On trouve les deux, n'est-ce pas? costume convenable, avec pudeur, suffisamment, modestie, pas trop. Les sœurs m'excuseront d'essayer de commenter le texte de manière prudente, c'est toujours difficile. Non pas de tresses d'or ou de perles ou d'habillement somptueux. Habillement somptueux, c'est, on pourrait traduire habillement de grand prix ou extrêmement recherché. Extrêmement recherché, mais par de bonnes œuvres, etc. Encore un mot peut-être après la fin du verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de donner d'autorité sur l'homme, Samuel en a parlé, mais elle doit demeurer dans le silence. Le vrai sens du mot, on trouve cela dans notre version, silence, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais silence est ambigu en français. Si je dis à quelqu'un « silence », il interprétera comme « tais-toi ». Mais j'écoute le silence de la nature, c'est le calme de la nature. Ici, c'est ce deuxième sens. Elle doit demeurer dans le silence, dans la sérénité plutôt. Il n'est pas question de bouche close ici. Il en est question en 1 Corinthiens, comme Samuel l'a bien dit, dans l'assemblée, dans le rassemblement. Ici, il n'est pas question spécialement de vie dans le rassemblement. Il est question de manière beaucoup plus générale de ce qu'est la femme, de ce qu'est l'homme. Donc elle doit demeurer, on pourrait traduire, dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la paix.
On peut peut-être aussi remarquer que dans ces versets concernant la femme, au verset 9, on peut lire ainsi, de même aussi que les femmes se parent d'un costume décent et non de perles, etc., mais par de bonnes œuvres. Autrement dit, je pense que la pensée, c'est se parer de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu.
On trouve exactement la même forme de texte dans le verset que Samuel a déjà cité, en 1 Pierre 3. Vous, dont la parure ne doit pas être, il y a donc tout ce qui est négatif, 1 Pierre 3, verset 3, ne pas être ceci, ceci ou cela, mais dont la parure doit être, on pourrait traduire au verset 4, l'être caché du cœur dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. On revient à 1 Timothée 2, là aussi, qui est d'un grand prix devant Dieu. Une question de parure, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle est.
Peut-être qu'on pourrait penser, que nos sœurs pourraient penser même que finalement le rôle de la femme est un rôle moindre que celui des hommes, si je peux m'exprimer ainsi, dans la parole, ce que Dieu leur demande, Mais je voudrais rappeler ici quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que dans l'évangile de Jean, on trouve deux femmes qui ont entendu une vérité fondamentale de l'Écriture de la part du Seigneur. Et c'est toujours quelque chose qui m'a frappé, et concerne la Samaritaine au chapitre 3, car le Père en cherche de tels qu'il adore. Il faut que l'on adore Dieu en esprit et en vérité. Cette grande vérité du christianisme est faite à une femme. Nous ne serions attendus qu'une telle vérité soit faite à des apôtres comme Pierre ou Jean. Mais non, elle est faite à une femme. Et plus que cela, à une femme, comme on la traite quelquefois, de pécheresse. Et la seconde vérité, toujours dans l'évangile de Jean, ce qui est dit alors à Marie de Magdala, on voit au travers de ces exemples la grâce de Dieu, la grâce infinie de Dieu. Marie de Magdala se trouve là au sépulcre et elle entend un message et elle est porteuse d'un message qui va être aussi les bases du christianisme. Va et dis à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Là aussi, on ne se serait pas attendu à ce qu'une telle vérité soit donnée à une femme. Voilà, je crois que la grâce de Dieu est au-dessus de tout cela et elle donne un rôle à la femme quand cela est nécessaire qui est peut-être au-dessus de celui des hommes.
Les femmes dans l'Évangile peuvent se généraliser à tous les Évangiles. Et si on fait une étude systématique des femmes dans les évangiles, comme d'ailleurs dans le livre des Actes, on aurait des surprises de voir que, y compris dans le domaine public, les femmes ont un rôle. Et c'est une étude qui est très rarement faite, mais qui est très instructive. Et en effet, il aurait donné des révélations, voire d'instruire, c'est le cas de Priscilla vis-à-vis d'Apollos, voire d'avoir une série d'activités qui sont tout à fait exceptionnelles. Ce sont des vastes sujets. Je crois qu'on peut remercier Samuel d'avoir nous avoir ainsi présenté le sujet dans sa globalité, parce que c'est un sujet qui est long, qui est difficile.